Bonsoir à tous. Les chefs d'État de l'EAC ont réitéré ce week-end la nécessité de mettre en œuvre le plan conjoint pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC en tant que principal instrument pour la désescalade des tensions et la normalisation des relations politico-diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Ils ont fait cette recommandation à l'issue du mini-sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Dans le communiqué final qu'ils ont signé, les pays de l'EAC ont décidé notamment de la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FRDC et la MONUSCO, du cantonnement et des armements du M23 sous le territoire congolais, sous le contrôle des autorités congolaises et la force régionale, du mécanisme de vérification ad hoc avec la collaboration de la mission onusienne. Ils ont insisté sur le retour des déplacés dans leur milieu d'origine, ainsi que les réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda, tels que mentionnés dans la feuille de route de Luanda. Les chefs d'État ont mandaté la République d'Angola, en collaboration avec le facilitateur désigné de l'EAC, Uhuru Kenyatta, à contacter les commandements du M23 afin de transmettre les décisions du mini-sommet d'Addis Abeba. Que pensez-vous des recommandations issues du mini-sommet d'Addis Abeba? Nous en parlons ce soir avec le professeur Arsène Mwaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Professeur Arsène Mwaka, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est aussi consultant indépendant des questions internationales. Frédéric Amani, bonsoir. Frédéric Amani, est-ce que vous êtes en ligne? Apparemment, on l'a perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Le professeur Casimir Ngoubi, politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur Casimir Ngoubi, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi, la radio de la paix.
Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jomez Mouchagaloussa. D'accord en accord, des sommets en sommet, mais aucun résultat sur terrain. Qu'est-ce qui manque pour exercer une pression militaire sur les rebelles du M23? Rémi Lokonga, les recommandations du mini-sommet de l'Union africaine sont à saluer, mais je reste sceptique quant à sa mise en application. Le gouvernement congolais doit éviter de mettre tout son espoir dans ses institutions, c'est-à-dire l'Union africaine et l'EAC. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5, mais si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Les chefs d'État de l'EAC réunis à Addis Abeba vendredi 17 février ont réitéré l'appel à la cessation des hostilités, en particulier les attaques du mouvement rebelle M23 contre les FRDC et la MONUSCO. Réunis en marge du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État de l'EAC ont mis l'accent entre autres sur le respect des dates établies par les chefs d'état-major de l'EAC à Nairobi le 9 février dernier, mais aussi le déploiement complet de la force régionale et la mise en œuvre rapide de son mandat. Notez que ce communiqué a été signé par toutes les parties présentes à ce sommet. Les détails avec vous, Sifa Maguru.
Le mini-sommet des chefs d'État a réitéré la nécessité de la mise sur pied d'un plan conjoint de résolution de la crise sécuritaire à l'Est en tant que principal instrument pour la désescalade des tensions et normalisation des relations politico-diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Le même communiqué revient sur le cantonnement et le désarmement des rebelles du M23 sur les territoires congolais sous le contrôle des autorités congolaises, de la force régionale, du mécanisme de vérification ad hoc et la MONUSCO, le retour des déplacés dans leur milieu d'origine ainsi que les réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda figurent parmi les points évoqués. Les chefs d'État ont mandaté la République d'Angola en collaboration avec les facilitateurs désignés de l'EAC, Uhuru Kenyatta, de contacter les commandements du M23 afin de transmettre les décisions du mini-sommet d'Addis Abeba.
Professeur Arsène Mwaka, professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politique de cette université. Professeur, les chefs d'État de l'EAC ont réitéré ce week-end la nécessité de mettre en œuvre le plan conjoint pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. en tant que principal instrument pour la désescalade des tensions et la normalisation des relations politico-diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Pensez-vous, professeur, que ce plan conjoint pourrait réellement aider à mettre fin à la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC?
Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il est clair que dans les conflits que nous traversons ces derniers temps, la partie est de notre pays, et particulièrement au nord Kivu, la RDC est naturellement mal positionnée sur le plan militaire, mais je pense que de tous les temps, même quand on essaie d'analyser depuis les années 1996, pour une fois, il y a un côté qui a gagné, c'est le côté diplomatique. La RDC a réussi à montrer au monde entier qu'il y a un État qui l'agresse, il y a un État qui agit en sous-main derrière les milices, et il y a un État qui finance l'instabilité. Mais ce qui n'a pas été résolu et qui ne change pas, c'est justement les rapports de force brutes sur le terrain qui sont à notre défaveur. Et donc, je semble croire que nous n'avons pas un autre choix au regard de ce qui se passe sur le terrain que de nous appuyer sur ce qui est fort. Ce qui est fort, c'est ce côté diplomatique. Si cela peut nous apporter quelque chose, je pense que c'est logique qu'on puisse s'attacher à ça. Et si peut-être le plan conjoint qui consiste à mettre en œuvre ce qui a été déjà décidé pour que la paix rentre, si cela peut se faire, ça pourra soulager un tout petit peu ce qu'il y a. Mais est-il que cette région a tellement accumulé des tensions, des conflits, et bref, un système complexe de conflits, à telle enseigne qu'on ne dira pas que tout est résolu définitivement. Mais il appartiendra peut-être à notre gouvernance d'intégrer ces éléments dans sa gouvernance pour espérer qu'un jour la paix revienne totalement, puisque au risque d'assister juste à une étape dans un processus de crise sans nécessairement être sûr qu'on est en train de résoudre quelque chose.
Professeur Arsène Mouaka, peut-on réellement parler des victoires diplomatiques lorsque, dans le communiqué final du mini-sommet d'Addis Abeba, nulle part, les chefs d'État, nulle part, ce mini-sommet n'a condamné ouvertement l'apport du Rwanda aux rebelles du M23?
Oui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a victoire, mais j'ai dit qu'il y a quand même quelque chose qui a été gagné, puisque au moins il est établi que le Rwanda joue un rôle. Il est établi que pour mettre fin à ce que le M23 fait, il faut carrément prendre le Rwanda. Et donc j'estime qu'il y a quand même là une évolution sur le plan diplomatique. Maintenant, cela pourra être une victoire dès le moment où on va voir le M23 cantonné et qu'on va voir un certain nombre d'autres problèmes résolus. Et peut-être on dira aussi que c'est une victoire quand le Congo prendra à bras le corps tout ce qui a toujours été manipulé comme problème pour qu'il y ait une solution congolaise aux problèmes congolais.
Plusieurs décisions ont été prises à l'issue de ce mini-sommet d'Addis Abeba. C'est entre autres la cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO dans le respect des dates établies par la réunion des chefs d'état-major de l'EAC réalisée à Nairobi le 9 février 2023, le déploiement complet de la force régionale de l'EAC et la mise en œuvre rapide de son mandat conformément aux décisions des différents mini-sommets. Alors, si on prend ces deux recommandations, ça ne s'écarte pas beaucoup de celles issues des autres sommets déjà organisés sur l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Qu'est-ce qui fait croire que cette fois-ci, le M23 va obtempérer, va respecter ces décisions du mini-sommet d'Addis Abeba?
Il convient d'abord de dire que quand on analyse l'évolution historique de cette région, les Rwandais adorent des choses comme ça, hein, qui se résument en anglais par talking and fighting, c'est-à-dire parler et se battre. C'est-à-dire au même moment que eux avancent sur le terrain, ils sont prompts aux négociations et à tout ce qu'il y a comme lutte sur le terrain. C'est-à-dire au même moment qu'ils se battent, au même moment ils parlent. Et ils adorent ça. Et je pense que le Congo doit agir différemment, n'est pas totalement croire à ce qui se passe, essayer de réorganiser l'armée pour essayer de changer les rapports des forces sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que nous puissions croire que cela pourra nous apporter solution? Nous sommes à l'étape des souhaits. C'est des souhaits. Parce que sur le plan réel, on ne voit pas à chaque fois qu'ils acceptent une chose, ils font le contraire. Le gouvernement congolais avait déjà dénoncé qu'il s'est désengagé du côté de Kibumba pour aller sortir du côté qu'ils adorent le mieux, le côté qui est militairement compliqué, c'est-à-dire la zone de Kichanga et Kiloli et tout le reste, puisqu'il savait que ça sera très difficile de les déloger militairement de cette région-là. Et que le plus souvent, quand on fait pression sur Goma, Goma est devenue non seulement une capitale quand même congolaise importante, mais aussi mondiale. C'est-à-dire, c'est les yeux de la communauté internationale sont sur cette capitale, on ne peut pas comme ça la prendre impunément, et encore que par le passé, ils ont déjà eu à se retirer de Goma. Et donc, nous sommes dans le souhait. Nous souhaitons qu'ils se retirent, nous espérons qu'ils vont se retirer, mais avoir des assurances, je ne pense pas. Par contre, si le mandat des forces armées de l'EAC peut être exécuté, ce que tout le monde attend, ce serait idéal. Malheureusement, les missions se multiplient et se ressemblent. Après la MONUSCO, ça devient, je crois, l'EAC qui pratiquement est là, mais ne semble pas agir au-delà de tout ce qu'il y a comme autre dispositif inefficace. Et donc, le souhait a toujours été celui de voir le Congo s'assumer, parce que c'est cela la solution, mais à défaut de cette solution, et donc on est obligé de faire avec ce qui se présente, tout en espérant et souhaiter que les choses peuvent aller.
Le M23 continue d'exiger ce dialogue direct avec le gouvernement congolais, et même l'EAC avait proposé au gouvernement congolais une solution politique, un dialogue avec tous les groupes armés qui opèrent en RDC, y compris le M23.
Oui. C'est à un certain moment, je pense que le gouvernement sera obligé, puisque si on ne gagne pas sur le terrain, on sera obligé de négocier avec eux, ne serait-ce que pour sortir de ces mauvais chapitres. Parce que tant que le gouvernement refusera, eh bien, il sera obligé de se battre. Or, apparemment, ce qui se passe sur le terrain ne permet pas d'analyser les choses dans le sens de croire que nous pouvons continuer avec cette possibilité d'estimer que nous allons les déloger, à moins que le gouvernement prépare des surprises. Et donc, ce qui est notre souhait, ce qui est même notre demande, tout le monde souhaiterait que l'on puisse les déloger. Mais malheureusement, la réalité de terrain nous dit le contraire. Réalisme politique oblige, et je crois qu'à un certain moment, le gouvernement finira par faire ce que lui-même ne souhaite pas et que la population ne voudrait pas attendre, celui de négocier directement avec le M23 et le Rwanda.
Professeur Casimir Ngoubi, politologue expert dans le domaine des violence politique et des groupes armés. Professeur, que pensez-vous des recommandations issues du mini-sommet d'Addis Abeba?
Merci beaucoup, Madame Kelly Kunté, pour la question. D'abord, je considère que la RDC continue à être distraite et accepter d'être distraite. Lorsque le commun des mortels observe de plus près ce qui se passe, les motivations de la présence des forces régionales de l'EAC sont très mal connues. Certaines sont avouées, les autres sont cachées. Une situation qui est extrêmement grave dans le Nord Kivu et même en Ituri, lorsqu'on essaie d'élargir les choses. Savez-vous, Madame Kelly, qu'aujourd'hui, 8 paroisses sur les 33 du diocèse de Goma sont occupées par le M23. Pourtant, les élections se préparent déjà. C'est pratiquement une balkanisation qui s'installe petit à petit. Les forces de l'AFC sont de l'EAC. Sont-elles venues, n'est-ce pas, constituer une zone tampon ou aider les FRDC à traquer l'M23? En tout cas, pour l'opinion, c'était aider les FRDC à traquer l'M23 et non pas constituer une zone tampon ou faciliter encore les négociations entre les gouvernements de la République et les M23. Les discours d'appel de ce seul fait, Madame Kelly, cachent un agenda selon lequel le gouvernement de la RDC est contraint de négocier avec le M23. Et quand vous regardez aussi la demande du retour des réfugiés congolais, campés au Rwanda et à l'Ouganda, c'est une pression exercée par ces pays, n'est-ce pas, pour obtenir toujours que le gouvernement de la République puisse accepter de négocier. Le M23 continue à utiliser ses stratégies d'empêcher la RDC, n'est-ce pas, à organiser les élections, comme d'ailleurs en 2013. Jusque-là, nous sommes en train d'observer petit à petit que le Rwanda et le M23 veulent empêcher la RDC d'organiser l'élection et par ricochet confirmer la thèse qui est acceptée à travers le monde selon laquelle la RDC n'a pas un véritable leadership qui peut lui permettre, n'est-ce pas, de faire accepter ces grands dossiers et par ricochet pour être compris par les grandes puissances sur le milieu politique international. Et donc, je considère que ce déficit de leadership congolais profite au Rwanda et à certains milieux politiques internationaux. Nous avons comme l'impression, Madame Kelly, dire, les forces de l'ANC sont complices du M23. Parce que s'ils n'étaient pas complices, ils attaqueraient directement aux côtés des partenaires M23. Je crois que depuis qu'ils sont là, que ces forces sont là, on arriverait déjà à un autre tournant sur le plan de l'évolution de cette guerre du M23.
Vous estimez donc, professeur Casimir Ngoubi, que ces décisions prises à l'issue du mini-sommet d'Addis Abeba ne vont pas mettre fin à la crise sécuritaire dans le Kivu?
Effectivement, madame, je considère cela comme de la simple distraction. Parce que lorsqu'il y a une guerre entre deux parties en conflit, il y a soit la victoire de l'une ou l'autre, soit la négociation. Et la communauté internationale, ou les autres NEAC et les autres États voisins, sont du côté du Rwanda et du M23. Ils sont en train de tirer les choses en longueur, alors que nous devons déjà préparer les élections. Pour moi, je reste pessimiste, c'est de la fantaisie, et rien ne sortira de bon dans les décisions qui venaient d'être préparées et qui venaient d'être données ce vendredi à par les forces de l'EAC.
Mais qu'est-ce qui vous fait croire que l'EAC est du côté du Rwanda? Quelle preuve vous avez pour penser que l'EAC est du côté du Rwanda et favorise le Rwanda et le M23?
Mais ils sont là depuis quand? Lorsqu'on regarde seulement les temps qu'elles ont déjà mis pour pouvoir aider. Et quand les motivations premières qui étaient avancées lorsqu'elles venaient, et la population était contente, tous nous croyons qu'ils allaient aider les FARDC à traquer les M23. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, le fait de constituer une zone tampon pour moi, c'est déjà d'accepter de se mettre au milieu et de demander au M23 et au gouvernement de la République de se mettre autour d'une table. Ce qui mettrait le gouvernement de la République en contradiction avec lui-même. Parce que, dès le départ, le gouvernement de la République considérait l'M23 comme un mouvement terroriste, vous voyez. Et donc, lorsqu'on met au pied du mur un gouvernement de cette manière-là, j'ai l'impression que les forces de l'ANC, si elles sont venues pour aider les gouvernements de la République ou les FARDC, elles se mettaient tout simplement à traquer l'M23. Or, l'M23 n'est qu'un instrument au service du Rwanda. Et donc, j'ai l'impression que c'est de la distraction et de la pure distraction.
Parmi ces décisions, il y a une qui parle du retour en RDC des réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda, tel que mentionné dans la feuille de route de Luanda. La crainte pour beaucoup de Congolais, c'est de voir des infiltrés parmi ces réfugiés qui doivent revenir en RDC.
Il n'y a pas que les infiltrés, Madame Kelly. Il n'y a pas que les infiltrés. Mais comment vous voulez que les populations rentrent dans leur milieu alors que la guerre n'est pas finie? Vous voyez? Donc on offre comme un holocauste encore les mêmes populations pour qu'elles soient massacrées par l'M23. Donc j'ai comme l'impression que c'est extrêmement grave. Cette demande ne constitue-t-elle pas une violation des droits humains? Et la communauté internationale qui regarde, qui sait très bien que ces populations, si elles retournent, d'abord pourquoi elles ont quitté? C'est parce que se sont senties menacées. Mais la guerre n'est pas finie, comment on peut demander à la même population, aux mêmes populations, de retourner dans leurs milieux? J'ai l'impression qu'ils font une chose avec son contraire, et moi je considère que c'est extrêmement grave, c'est exposer toutes ces populations, n'est-ce pas, à la boucherie du M23, et les conséquences seront extrêmement graves. Parce qu'il y en a même qui s'est acquitté, il y en a même qui quittent nuit et jour, qui quittent l'espace gardé par le M23. Et maintenant on demande à celles qui se trouvent déjà au Rwanda et en Ouganda de pouvoir rentrer. Et les AC et les autres États acceptent que ces populations rentrent. C'est pas croyable pour des humains et que ces gens représentent et qu'on leur demande de pouvoir rentrer pour mourir.
Frédéric Amani, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonjour madame. Madame.
Bonsoir Frédéric, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Vous êtes aussi consultant indépendant des questions internationales. Il y a eu ce mini-sommet d'Addis Abeba. Plusieurs décisions ont été prises pour essayer de mettre fin à la problématique de guerre dans le Nord Kivu, à ce problème de guerre entre le M23 et les FARDC. Comment vous analysez ces décisions prises par les chefs d'État de l'EAC? Est-ce que vous pensez que ça pourrait réellement mettre fin à la crise dans l'Est de la RDC?
Bien, merci beaucoup pour la question pertinente, mais aussi pour l'invitation. J'en profite pour saluer les professeurs Arsène Mouaka ainsi que le prof Casimir et des milliers des auditeurs des radios Okapi. Alors, ce qu'il faut noter par rapport à votre question, je voudrais d'abord commencer par dire qu'en gestion ou en management de façon particulière, il y a une stratégie qu'on applique, c'est la stratégie des gares, gestion axée sur les résultats. Et que cette stratégie voudrait que l'organisation ou la structure commence par faire un diagnostic, évalue, faire une planification et aussi le suivi des actions qu'elle va mener. Alors, les recommandations issues du mini-sommet d'Addis Abeba. Nous encourageons toujours toutes les initiatives pour que la paix et la sécurité soient retrouvées à l'est de la RDC. Comme vous le savez, l'insécurité à l'est de la RDC affecte directement et indirectement la sous-région des Grands Lacs. Donc, il va de l'intérêt non seulement que l'EAC, mais aussi la communauté internationale s'investisse pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie. Mais ce qu'il faut aussi noter, quelles sont les stratégies ou quelle évaluation que la EAC a fait pour, passez-moi la tautologie, évaluer la feuille de route de Luanda ou le sommet de Bujumbura pour que d'autres recommandations soient mises sur table. Moi, je pense, sans être prophète des malheurs, je ne les souhaite pas, mais moi, je pense que ces recommandations entrent en ligne de compte de ce que je qualifie d'une stratégie de pourrissement, mais aussi d'une stratégie de compromis. Stratégie de pourrissement dans la mesure où on va de sommet en sommet, des accords en accord, sans que les accords signés avant soient appliqués et apportent des résultats escomptés, mais aussi une stratégie de compromis dans la mesure où, comme qui dirait, on veut, excusez-moi le terme, on veut imposer à la RDC d'appliquer des choses que d'autres États ou d'autres belligérants devraient faire. Donc, malheureusement, ce mini-sommet est venu encore, si vous voulez bien, distraire ou embrouiller la RDC à compter sur elle-même, à se réorganiser au niveau interne, à appuyer son armée pour que la paix et la sécurité reviennent. Mais si on peut compter sur EAC, d'abord que cette communauté commence par condamner les Rwandais, parce que les rapports d'experts des Nations Unies, les rapports des Human Rights Watch et d'autres organisations ont clairement montré que le M23, c'est un arbre qui cache la forêt. Le M23, c'est une fabrication du Rwanda. Et moi, je signe et je persiste. Il n'y a pas seulement le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda dans cette affaire. Donc, c'est une façon d'embrouiller la RDC à se réorganiser au niveau interne et penser que son soutien ou sa solution proviendra de l'EAC, malheureusement. D'où il faut que la RDC se réveille et pense d'autres stratégies qu'elle va mettre en place pour contourner cette ruse de l'EAC qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais condamné le Rwanda ou n'a jamais exercé une pression au M23 pour le cesser les faits ou le retrait. Depuis novembre 2022, dans l'affaire des routes de Luanda, il a été dit le cesser les faits, le retrait des zones occupées. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Tout à l'heure, je venais de lire sur votre page et sur les réseaux sociaux qu'il y a des hostilités ou il y a des combats qui se poursuivent aujourd'hui, lundi, dans le Nord Kivu. C'est comme qui dirait, on est en train de tourner à rond. Moi, je veux que la RDC soit le maître de son destin sécuritaire en comptant d'abord sur elle-même. Il est vrai que nous saluons tous les efforts que la RDC déploie en dénonçant clairement dans les instances internationales le soutien du Rwanda au M23, et nous voulons et nous pensons que cette fois-ci, la communauté internationale sera réceptive aux cris de détresse de la RDC pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie. Mais tout en sachant que sur la scène internationale, les États n'ont pas ni amis ni ennemis. Ce n'est pas de bonne guerre que l'EAC ou le Kenya ou un autre pays veuille envoyer ses troupes en RDC sous prétexte de sécuriser ou d'appuyer les efforts de paix, mais c'est parce que la RDC, vous les connaissez mieux d'ailleurs, que aujourd'hui c'est un enjeu majeur dans la mondialisation de par ses potentialités qu'elle regorge. Et que avec l'absence de l'autorité de l'État dans cette partie, chaque pays voudrait montrer des beaux yeux à la RDC en passant par la force régionale pour aussi avoir droit au gâteau, malheureusement. Et c'est le peuple congolais qui continue à en payer les prix et les autres continuent à se servir de la RDC comme passerelle pour aller de l'avant, malheureusement.
Alors, Frédéric Amani, beaucoup de Congolais se posent la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'impact sur terrain, alors qu'on a organisé plusieurs sommets ou mini-sommets pour trouver des solutions et mettre fin à cette histoire du M23. Donc, on va des sommets en sommets, des résolutions en résolutions, des recommandations en recommandations, mais sur terrain, aucun impact. Comment expliquer cela?
Bien, le manque d'impact sur terrain se situe au niveau suivant. D'abord, il n'y a pas bonne volonté politique de la part des pays agresseurs, notamment le Rwanda et l'Ouganda, et leur soutien qui manifeste une chose et son contraire. Ça, c'est de un. De deux, il n'y a pas d'impact parce que il y a ce que j'appelle cette stratégie-là de pourrissement. D'un côté, le Rwanda d'abord qui nie toute implication dans la déstabilisation de l'Est et de la RDC. De l'autre côté, les M23 qui montent au créneau pour remettre en cause tous les accords qui sont signés pour le cessez-le-feu et les retraits. Et cet imbroglio-là veut que la guerre ne puisse pas cesser. Et des trois, je crois qu'il n'y a pas, excusez-moi, un soutien tous azimuts de la communauté internationale pour appuyer les efforts qui devraient être faits. Parce que il y a un principe du droit international qui dit « pacta sunt servanda », les accords sont signés pour être appliqués. Depuis qu'on a signé les accords pour la paix et la sécurité à l'Est, mais la RDC, tant bien que mal, cherche à appliquer tout ce qui lui revient. Mais pourquoi le Rwanda ne veut pas appliquer? Pourquoi l'Ouganda? Pourquoi la communauté internationale ne veut pas aussi apporter le soutien dont la RDC a besoin pour que ces accords soient respectés? D'un côté, on veut que la RDC négocie avec les rebelles du M23, mais de l'autre côté, pourquoi on ne veut pas aussi que le Rwanda négocie avec les FDLR qui sèment l'insécurité? Pourquoi on ne veut pas aussi que l'Ouganda négocie avec les ADF qui sèment l'insécurité? Mais tout, on veut mettre sous le dos de la RDC. Je crois l'avoir dit il n'y a pas longtemps sur votre chaîne, madame, qu'on ne doit pas oublier ces fameux projets de balkanisation. Tout à l'heure, dans les recommandations, vous l'avez dit, qu'on veut, d'ailleurs le professeur Kajimir aussi est revenu là-dessus, on veut le retour des réfugiés congolais. Comment voulez-vous le retour dans des zones où il y a encore le feu? Allez-y comprendre qu'il y a quelque chose. D'où nous pensons que pour que ces accords soient appliqués, il faut une réorganisation au niveau interne de la part de la RDC. Mais penser que c'est l'EAC qui va condamner le Rwanda ou c'est un soutien externe, on en a besoin. Mais d'abord, il faut que les gros soient faits au niveau interne et cela va impulser une dynamique qui va contraindre les M23 à la reddition, qui va contraindre le Rwanda à ne plus soutenir les M23, et surtout une pression diplomatique dans les instances internationales pour que le soutien du Rwanda et de l'Ouganda soit aussi arrêté, comme on l'a vu à l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Je crois que c'est de cette manière-là qu'on pourra parvenir à la paix et à la sécurité à l'est du pays.
Les auditeurs sont nombreux à appeler sur notre standard. On va l'ouvrir pour prendre ces nombreuses personnes qui appellent. On va se rendre à Goma. Ça sera pour vous, professeur Arsène Mouaka. On va écouter cet auditeur.
Jérémy Alain, d'ici moi depuis la ville de Goma, au Nord Kivu. Il est temps que la RDC Congo comprenne les jeux politiques du fameux EAC qui reste loin d'apporter une solution durable pour l'Est de la RDC. Parler des réfugiés congolais qui sont au Rwanda n'est qu'une façon de créer une nouvelle infiltration qui va nous conduire dans un nouveau problème d'occupation. Que faisait l'EAC depuis que les M23 progressaient de Bunagana jusqu'aux portes de Goma? À mon avis, la guerre continue d'être seule voie qui va nous sortir de cette crise, étant donné que les FRDC se comportent bien sur le terrain et que l'ennemi est déjà fragilisé, que l'EAC combatte ou se retire paisiblement sur le sol congolais.
Professeur Arsène Mouaka.
Oui, je voudrais dire à Jérémy que l'idéal est connu. L'idéal, c'est que nous puissions faire notre guerre, nous puissions bouter dehors l'ennemi, et tous ses complices, c'est ça l'idéal. Mais réalisme oblige, nous avons appelé au secours tous les autres puisque ça ne va pas, nous ne savons pas bien avancer. de Bunagana jusqu'à Kichanga, Kiloliwe, ça signifie qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, je suis d'avis que quand vous appelez quelqu'un, vous les subissez. Et on ne va pas continuer à rester sur l'idéal, mais je pense qu'il y a des données qui sont sur le terrain qui nous parlent. Il y a des choses que nous pouvons faire maintenant pour être en mesure de nous défendre demain. Et ce n'est pas quand on vous tient au cou que vous posez des conditions, sinon on va forcément presser. Et donc, je vois très mal que l'étranger seul puisse finir ce qui ne va pas chez nous. Mais si nous changeons le rapport des forces sur le terrain, je pense que le discours de Jérémy peut être valable. Malheureusement, selon les données que moi je détiens, le rapport des forces ne semble pas trop bien être à notre faveur.
Professeur Arsène Mouakaya, cette question du retour des réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda, il y a un auditeur anonyme qui demande comment peut-on rapatrier des réfugiés qui ne sont pas identifiés. Ils vont revenir pour occuper quelles terres non préparées. Des préoccupations que les gens se posent.
Oui, je pense qu'on revient plusieurs fois sur la question des réfugiés. Dans le temps, c'était des réfugiés rwandais qui devaient rentrer au Rwanda. Mais depuis un certain temps, c'est maintenant on parle des réfugiés congolais qui doivent retourner au Congo. Je ne pense pas que les réfugiés ont besoin d'une guerre. Et je ne pense pas que les réfugiés ont mandaté quelqu'un. Mais là encore, c'est toujours le même problème pour dire, ce sont les mêmes prétextes qui sont utilisés, puisque le Congo ne les vide pas. Et comme on nous dit que ce sont des Congolais, je pense qu'il y a lieu de s'y pencher pour essayer de vérifier qui sont ces gens et que le pays soit à mesure de se prononcer une fois pour tout sur cette question. Chaque fois qu'on parle de problème, j'aurais souhaité, à mon avis, que le gouvernement regarde dedans et qu'il y ait un comportement officiel au lieu de laisser perdurer cette histoire des réfugiés congolais qui se trouveraient dans des pays voisins et qui auraient envie de rentrer par les armes. Et donc, je ne pense pas que ce soit une bonne situation. Et même sur le plan sécuritaire, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on sait comment Kagame et ses amis sont arrivés au pouvoir. C'était le même prétexte qu'ils utilisaient.
Professeur Casimir Ngoubi, on va, après Goma, on va aller dans le Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Likasi, pour écouter cet auditeur.
Georges Mukala Chambouyi, depuis la ville de Likasi, dans le Haut-Katanga. Toutes ces recommandations issues de ce mini-sommet d'Addis Abeba sont du déjà entendu. Bien que je peux encourager cette volonté politique de désamorcer la situation d'une manière diplomatique, il faut noter que la République démocratique du Congo, mon pays, ne doit surtout pas compter sur toutes ses forces et puissances étrangères pour ramener la paix, la sécurité et la quiétude sur l'ensemble de son territoire. La cessation des hostilités, le cantonnement des troupes du M23 et le mécanisme de vérification ad hoc sont une des pistes de solution. Mais ça ne constitue en aucun cas ni la garantie pour une paix durable, ni la voie par excellence pour une République démocratique du Congo intègre, sans au préalable une restructuration des services de sécurité et de notre système de défense de fond en comble.
Professeur Casimir, réaction.
L'auteur a totalement raison, Madame Kelly Kouté. Chaque résultat, chaque sommet et les résolutions qui en découlent constituent, à mon avis, une interpellation à la classe politique de notre pays, qui doit cesser avec les conflits internes. Les acteurs politiques doivent fédérer autour de ceux qui ont la vision de sortir ces pays du bourbier. Et donc, à l'absence de ces leadership qui se dessineraient dans notre pays, j'ai l'impression que n'importe qui viendrait de n'importe où pour se permettre n'importe quoi dans notre pays. Et donc, l'auditeur a raison, et je crois que cette interpellation arrive bel et bien aux oreilles de ceux qui nous dirigent, pour prendre des décisions conséquemment.
Frédéric Amani, on va prendre ces derniers auditeurs pour vous. Il nous appelle depuis Kolwezi dans le Lualaba.
Souk Mouigiroa à partir de Kolwezi. Le fait que ce mini-sommet n'a pas condamné ouvertement l'apport du Rwanda aux rebelles du M23 et exigé à Kigali de ne pas s'ingérer dans cette question ni dans les affaires internes de la RDC, je pense qu'on ne doit pas beaucoup compter sur l'EAC dans le rétablissement de la paix à l'Est, parce que on a l'impression que cette communauté joue à l'hypocrisie. Et chaque pays membre de cette communauté a son agenda caché. Et c'est pourquoi ils ne savent donc pas dire clairement au Rwanda de cesser les hostilités avec la RDC. Alors, comment et pourquoi l'EAC peut être considéré comme un instrument pour apaiser les tensions diplomatiques entre la RDC et le Rwanda? Au fait, je trouve que le gouvernement congolais devrait tout simplement se retirer de cette organisation, car on ne peut pas rester dans une communauté où certains pays membres vous jouent des sales coups. Il n'y a pas que les Rwandais qui apportent le soutien 23, parce que l'Ouganda aussi y est pour quelque chose.
Frédéric Amani.
Merci beaucoup, madame. Je crois que l'auditeur, M. Mouigiwa, je le remercie pour sa question. J'ai dit aussi la même chose. Alors, ce qu'il faut faire, parce que au regard de ce qui se passe sur terrain, j'ai comme impression que l'EAC pense proposer des solutions, mais qui, à mon avis, semble être encore des problèmes. D'où il faut que cela soit bien clarifié du côté congolais et du côté du EAC. Et il y a une autre logique qu'on ne dit pas assez. Lorsqu'on est dans une structure, à l'occurrence une organisation internationale, lorsque vous y intégrez, c'est pour apporter un apport et afin de fédérer les efforts. Mais lorsque vous ne parvenez pas à jouer, à faire une influence au sein de cette organisation, alors vous subissez l'influence des autres acteurs. Moi, je pense que actuellement, j'ai comme impression que la RDC semble subir l'influence des autres acteurs au sein de EAC et que l'idéal serait de se retirer de cette organisation ou de penser sa sécurité et sa stabilité d'abord en comptant sur d'autres organisations, notamment la SADC, en comptant sur ses efforts personnels. Un autre élément à ajouter par rapport à cette question de M. Mouigiwa, c'est que il n'est jamais tard pour mieux faire. Il est vrai que cette question de l'Est préoccupe non seulement les Congolais, mais aussi la communauté internationale, ça fait beaucoup de temps. Mais je souhaite que, plus que jamais, que la RDC s'inscrive dans une pensée prospective pour que dans 2-3 ans, qu'elle ne continue plus, excusez-moi le terme, à pleurnicher ou à crier que le Rwanda nous attaque, l'Ouganda nous attaque, le M23 n'a pas cessé les faits, et que dans 2-3 ans, qu'on ait une armée républicaine, les institutions fortes et une pensée géopolitique efficace pour que l'Est de la RDC et ses frontières ne soient pas poreuses et que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie. Et surtout, interpeller la communauté internationale par rapport à cette politique de deux poids, deux mesures qui s'observe pour la RDC, où c'est à peine qu'on peut entendre les déclarations, les condamnations, mais qui malheureusement n'arrivent pas au bout. À peine on peut entendre que l'Union européenne ou les États-Unis ont réagi par rapport à ce qui se passe à l'Est, mais on ne voit pas les suivis, on ne voit pas la concrétisation de toutes ces déclarations, contrairement à ce qui se passe en Ukraine.
Alors, par rapport à tout ça, Frédéric Amann, en conclusion, pour vous, il faut que la RDC se retire de cette organisation.
D'abord, se retirer, c'est une chose, mais d'abord, que la RDC se réorganise au niveau interne pour qu'il devienne un État capacitaire, un État fort, et qu'il ait un rapport de force sur la scène internationale à présenter vis-à-vis du Rwanda, de l'Ouganda ou de tout autre pays qui manifesterait les velléités expansionnistes vis-à-vis de l'Est. Ça, c'est de un. De deux, je crois que jusqu'à aujourd'hui, la RDC ne bénéficie pas de son influence au sein de l'EAC et du coup, il faut mieux que la RDC pense à se retirer de cette organisation. De plus, pour ne pas s'inscrire dans ce que fait professeur paix à son âme, Philippe Bioya, appelé un suivisme diplomatique, où on semble adhérer dans beaucoup d'organisations, mais qui malheureusement n'apporte pas grand-chose au pays, et ce sont les autres qui en profitent. Je pense que l'appel à l'unité, l'appel à la cohésion par rapport à ce qui se passe à l'Est, doit être de mise pour soutenir les institutions du pays et apporter un soutien tant qu'on peut pour que la paix et la sécurité reviennent. Parce que l'est du pays, c'est la République démocratique du Congo et non ailleurs, et que toutes les provinces doivent aussi être mobilisées pour que l'est recouvre sa paix et sa sécurité.
Merci Frédéric Amani. Professeur Casimir Ngoubi, le chef d'État et de gouvernement, a mandaté la République d'Angola en collaboration avec l'ancien président Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par l'EAC, a contacté le commandement du M23 afin de transmettre les décisions du mini-sommet d'Addis Abeba.
C'est même ridicule, Madame Mekeli, c'est même ridicule que des États souverains s'adressent à un mouvement rebelle ou supplient un mouvement rebelle pour lui adresser de telles propositions. J'ai comme l'impression que c'est ça. Ça dépasse tous les spécialistes en relations internationales. Ça dépasse tout ce que l'on peut entendre par rapport à l'insécurité, au massacre, avec toutes les preuves connues jusque-là. J'ai l'impression que c'est quand même grave. La RDC est abandonnée à son triste sort.
Pour
elle doit composer avec les diables pour restaurer la paix sur l'ensemble de son territoire.
Pour l'EAC, il faut privilégier l'option diplomatique.
Je ne suis pas de cet avis. Moi, j'ai comme l'impression qu'il faut composer avec les diables pour l'instant. Regardez comment ils sont en train de boycotter les élections, les processus électoraux qui a commencé. Il faut que le gouvernement évite de considérer que l'enrôlement des électeurs s'apparente à l'enrôlement des électeurs. Il faut donc une approche populaire de la résistance qui est plus que nécessaire, Madame Kelly, pour bouter Kagame et son M23 hors territoire national.
Merci, professeur Casimir Ngoubi. Professeur Arsène Mweka, les chefs d'État et des gouvernements se sont engagés à mettre en place, dans le plus bref délai, un cadre de coordination des mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du désengagement retrait du M23 sous les auspices du président burundais Evariste Ndayishimiye, qui est président en exercice de l'EAC. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devait se faire déjà en amont?
Oui, absolument. Je pense que dès lors que rien n'échange sur le terrain et que la RDC continue à être faible, ils ne peuvent que multiplier tout ce qui est comme mécanisme sur le plan international pour qu'il n'y ait pas vide. Et donc, pour moi, je pense qu'eux-mêmes savent que ce n'est pas ça la solution. Quand quelqu'un prend les armes, on les chasse par les armes. Et beaucoup de Congolais ont cru qu'ils venaient pour venir chasser le M23. Je pense que là, on est dans une désillusion, à moins que demain nous réserve surprise. Et donc, nous apprendrons, malheureusement, à nos dépens, que la sécurité de notre pays, c'est notre propre affaire. Nous devons désormais apprendre à nous approprier un adage simple qui dit « qui veut la paix, prépare la guerre ». Nous devons structurer notre armée et essayer de nous organiser. Mais malheureusement, on est déjà à pleine guerre et donc pour moi, le côté diplomatique doit continuer à faire son travail. Et si on peut avoir un moment de répit, on pourra alors avoir le temps de pouvoir réaliser tout ce que les auditeurs et les autres collègues avec qui on a discuté ce soir ont bien dit, structurer l'armée dans la durée.
Merci, professeur Arsène Mweka. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui l'a réalisé. La mise en onde est assurée par Alain Goy, présentation et coordination qui l'écoute. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.